Edgar Poe, traduit par Baudelaire, Quatre bêtes en une. L'homme caméléopard, chacun a ses vertus, Crébillon, Xerxès. Antiochus Épiphanès est généralement considéré comme le Gog du prophète Ézéchiel. Cet honneur, toutefois, revient plus naturellement à Cambyse, le fils de Cyrus. Et d'ailleurs, le caractère du monarque syrien n'a vraiment aucun besoin d'enjolivure supplémentaire. Son avènement au trône, ou plutôt son usurpation de la souveraineté, 171 ans avant la venue du Christ, sa tentative pour piller le temple de Diane à Éphèse, son implacable inimitié contre les Juifs, la violation du Saint des Saints et sa mort misérable à Tabar après un règne tumultueux de 11 ans, sont des circonstances d'une nature saillante et qui ont dû généralement attirer l'attention des historiens de son temps, plus que les impies, lâches, cruels, absurdes et fantasques exploits qu'il faut ajouter pour faire le total de sa vie privée et de sa réputation. Supposons, gracieux lecteur, que nous sommes en l'an du monde 3830, et pour quelques minutes transportés dans le plus fantastique des habitacles humains, dans la remarquable cité d'Antioche. Il est certain qu'il y avait en Syrie et dans d'autres contrées 16 villes de ce nom, sans compter celles dont nous avons spécialement à nous occuper. Mais la nôtre, celle qu'on appelait Antiochia Epidaphné, à cause qu'elle était toute proche du petit village de Daphné, où s'élevait un temple consacré à cette divinité. Elle fut bâtie, bien que la chose soit controversée, par Séleucus Nicator, le premier roi du pays après Alexandre le Grand, en mémoire de son père Antiochus, et devint immédiatement la capitale de la monarchie syrienne. Dans les temps prospères de l'Empire romain, elle était la résidence ordinaire du préfet des provinces orientales. Et plusieurs empereurs de la cité reine, parmi lesquels peuvent être mentionnés spécialement Verus et Valence, y passèrent la plus grande partie de leur vie. Mais je m'aperçois que nous sommes arrivés à la ville, montons sur cette plateforme et jetons nos yeux sur la ville et le pays circonvoisins. Quelle est cette large et rapide rivière qui se fraye un passage accidenté d'innombrables cascades à travers le chaos des montagnes, enfin à travers le chaos des constructions? C'est l'Oronte, et c'est la seule eau qu'on aperçoive à l'exception de la Méditerranée, qui s'étend comme un vaste miroir jusqu'à 12 000 environ vers le sud. Tout le monde a vu la Méditerranée, mais permettez-moi de vous le dire, très peu de gens ont joui du coup d'œil d'Antioche. Très peu de ceux-là, veux-je dire, qui, comme vous et moi, ont eu en même temps le bénéfice d'une éducation moderne. Ainsi, laissez là la mer et portez de vous votre attention sur cette masse de maisons qui s'étend à vos pieds. Vous vous rappelleriez que nous sommes en l'an du monde 3830. Si c'était plus tard, si c'était par exemple en l'an de notre Seigneur 1845, nous serions privés de cet extraordinaire spectacle. Au XIXe siècle, Antioche est, c'est-à-dire Antioche sera, dans un lamentable état de délabrement. D'ici là, Antioche aura été complètement détruite à 3 époques différentes par 3 tremblements de terre successifs. À vrai dire, le peu qui restera de sa première condition se trouvera dans un tel état de désolation et de ruine que le patriarche aura transporté alors sa résidence à Damas. C'est bien, je vois que vous suivez mon conseil et que vous mettez votre temps à profit pour inspecter les lieux, pour rassasier vos yeux des souvenirs et des objets fameux qui font la grande gloire de cette cité. Ah, je vous demande pardon, j'avais oublié que Shakespeare ne fleurira pas avant 1750 ans. Mais l'aspect d'Épidaphné ne justifie pas cette épithète de fantastique que je lui ai donnée. Elle est bien fortifiée, À cet égard, elle doit autant à la nature qu'à l'art. Très juste. Il y a une quantité prodigieuse d'imposants palais, en effet. Et les temples nombreux, somptueux, magnifiques, peuvent soutenir la comparaison avec les plus célèbres de l'Antiquité. Et je dois reconnaître tout cela. Cependant, il y a une infinité de huttes de bousillage et d'abominables baraques. Il nous faut bien constater une merveilleuse abondance d'ordures dans tous les ruisseaux. Et n'est-elle la toute-puissante fumée de l'encens idolâtre, à coup sûr nous trouverions une intolérable puanteur. Vites-vous jamais des rues si insupportablement étroites ou des maisons si miraculeusement hautes? Quelles noirceurs leurs ombres jettent sur le sol! Ah, il est heureux que les lampes suspendues dans ces interminables colonnades restent allumées toute la journée, autrement nous aurions ici les ténèbres de l'Égypte au temps de sa désolation. Oui, c'est certainement un étrange lieu. Mais que signifie ce singulier bâtiment là-bas? Regardez, il domine tous les autres et s'étend au loin à l'est de celui que je crois être le palais du roi. C'est le nouveau temple du soleil qui est adoré en Syrie sous le nom d'Ella Gabala. Plus tard, un très fameux empereur romain instituera ce culte dans Rome et en tirera son surnom Héliogabalus. J'ose vous affirmer que la vue de la divinité de ce temple vous plairait fort. Oh, vous n'avez pas besoin de regarder au ciel, Sa Majesté le Soleil n'est pas là, du moins le soleil adoré par les Syriens. Cette déité se trouve dans l'intérieur du bâtiment situé là-bas. Elle est adorée sous la forme d'un large pilier de pierre dont le sommet se termine en un cône ou pyramide, par quoi est signifié le pur, le feu. Oh, écoutez, regardez, quels peuvent être ces ridicules êtres à moitié nus, à face peinte, qui s'adressent à la canaille avec force, gestes et vociférations? Nos quelques-uns, en petit nombre, sont des saltimbanques. D'autres appartiennent plus particulièrement à la race des philosophes. La plupart, toutefois, spécialement ceux qui travaillent la populace à coups de bâton, sont les principaux courtisans du palais qui exécutent, comme c'est leur devoir, quelque excellente drôlerie de l'invention du roi. Mais voilà du nouveau, ciel! La ville fourmille de bêtes féroces. Oh, mais quel terrible spectacle, quelle dangereuse singularité! Terrible, si vous voulez, mais pas le moins du monde dangereuse. Chaque animal, si vous voulez vous donner la peine d'observer, marche tranquillement derrière son maître. Quelques-uns, sans doute, sont menés avec une corde autour du cou, mais ce sont principalement les espèces plus petites ou plus timides. Le lion, le tigre et le léopard sont entièrement libres. Ils ont été formés à leur présente profession sans aucune difficulté et suivent leurs propriétaires respectifs en manière de valet de chambre. Il est vrai qu'il y a des cas où la nature revendique son empire usurpé, mais un héros d'armes dévoré, un taureau sacré étranglé, sont des circonstances beaucoup trop vulgaires pour faire sensation dans l'épidaphné. Mais quel extraordinaire tumulte entends-je! À coup sûr, voilà un grand bruit, même pour Antioche. Cela dénote quelque incident dans l'intérêt inusité. Oui, indubitablement. Le roi a coordonné quelques nouveaux spectacles, quelques exhibitions de gladiateurs à l'hippodrome, ou peut-être le massacre des prisonniers scythes, ou l'incendie de son nouveau palais, ou bien, ma foi, un beau feu de joie de quelques juifs. Le vacarme augmente. Des éclats d'hilarité montent vers le ciel. L'air est déchiré par les instruments à vent et par la clameur d'un million de gosiers. Descendons pour l'amour de la joie et voyons ce qui se passe. Par ici, prenez garde, nous sommes ici dans la rue principale, qu'on appelle la rue de Timarchus. Cette merde populace arrive de ce côté, il nous sera difficile de remonter le courant. Elle se répand à travers l'avenue d'Héraclide, qui part directement du palais. Ainsi le roi fait très probablement partie de la bande. Oui, j'entends les cris du héros qui proclame sa venue dans la pompeuse phraséologie de l'Orient. Nous aurons le coup d'œil de sa personne quand il passera devant le temple d'Ashima. Mettons-nous à l'abri dans le vestibule du sanctuaire. Il sera ici tout à l'heure. Pendant ce temps, considérons cette figure. Qu'est-ce ? Ah oui, c'est le dieu Ashima en personne. Vous voyez bien que ce n'est ni un agneau, ni un bouc, ni un satyre. Il n'a guère plus de ressemblance avec le pan des Arcadiens. Et cependant, tous ces caractères ont été, pardon, seront attribués par les érudits des siècles futurs à l'Ashima des Syriens. Mettez vos lunettes et dites-moi ce que c'est. Qu'est-ce ? Dieu me pardonne, mais c'est un singe. Oui, vraiment, un babouin, mais pas le moins du monde d'une déité. Son nom est une dérivation du grec simia. Quel terrible saut que les antiquaires! Mais voyez là-bas courir ce petit polisson en guenille. Où va-t-il? Que braille-t-il? Que dit-il? Oh! Il dit que le roi arrive en triomphe, qu'il est dans son costume des grands jours, qu'il vient à l'instant même de mettre à mort de sa propre main 1000 prisonniers israélites enchaînés. Pour cet exploit, le petit misérable le porte nu. Ah, attention, voici venir une troupe de gens, tous semblablement attifés. Oh, ils ont fait un hymne latin sur la vaillance du roi et le chantent en marchant. Mille, 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 decola vibus unus homo. Mille, 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 decola vibus, mille, 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 vivat qui mille, mille occidit, tantum vintam et nemo, quantum sanguinis effudit. Ce qui peut être ainsi paraphrasé. Mille, 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 avec un seul guerrier, nous en avons dégorgé mille. Mille, 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 chantons mille à jamais, hurrah! Chantons longue vie à notre roi qui a abattu 1000 hommes si joliment. Hurrah! Crions à tue-tête qui nous a donné une plus copieuse vendange de sang que tout le vin que peut fournir la Syrie. Entendez-vous cette farfare de trompette? Oui, le roi arrive. Voyez, le peuple est pantelant d'admiration et lève les yeux au ciel dans ce respectueux attendrissement. Il arrive, hein, le voilà. Qui ? Où ? Le roi ? Je ne le vois pas, mais je vous jure que je ne l'aperçois pas. Il faut que vous soyez aveugle. C'est bien possible, toujours est-il, que je ne vois qu'une foule tumultueuse d'idiots et de fous qui s'empressent de se prosterner devant un gigantesque caméléopard et qui s'évertue à déposer un baiser sur le sabot de l'animal. Voyez, la bête vient justement de cogner rudement quelqu'un de la populace. Ah, encore un autre, et un autre, et un autre. En vérité, je ne puis m'empêcher d'admirer l'animal pour l'excellent usage qu'il fait de ses pieds. Populace, en vérité, mais ce sont les nobles et libres citoyens d'Épidaphnée. La bête, avez-vous dit, prenez bien garde, si quelqu'un vous entendait. Ne voyez-vous pas que l'animal a une face d'homme ? Mais non, mon cher monsieur, ce caméléopard n'est autre qu'Antiochus Epiphanes. Antiochus, l'illustre roi de Syrie, est le plus puissant de tous les autocrates de l'Orient. Il est vrai qu'on le découvre quelquefois du nom d'Antiochus Epimanes, Antiochus le fou, mais c'est à cause que tout le monde n'est pas capable d'apprécier ses mérites. Il est bien certain que pour le moment, il est enfermé dans la peau d'une bête et qu'il fait de son mieux pour jouer le rôle d'un caméléopard. Mais c'est un dessein de mieux soutenir sa dignité comme roi. D'ailleurs, le monarque est d'une stature gigantesque et l'habit, conséquemment, ne lui va pas mal et n'est pas trop grand. Nous pouvons toutefois supposer que n'était une circonstance solennelle il n'en se serait pas revêtu. Ainsi, voici un quart, convenez-en, le massacre d'un millier de juifs. Avec quelle prodigieuse dignité le monarque se promène sur ses quatre pattes. Sa queue, comme vous voyez, est tenue en l'air par ses deux principales concubines, Elline et Angegaïs. Et tout son extérieur serait excessivement prévenant, n'est-elle la protubérance de ses yeux, qui lui sortiront certainement de la tête, et la couleur étrange de sa face, qui est devenue quelque chose d'innommable par suite de la quantité de vin qu'il a englouti. Suivons-le à l'hippodrome où il se dirige et écoutons le chant de triomphe qu'il commence à entonner lui-même. Qui est roi si ce n'est Épiphanès? Dites, le savez-vous? Qui est roi si ce n'est Épiphanès? Bravo, bravo! Il n'y a pas d'autre roi qu'Épiphanès, non, pas d'autre. Ainsi jetez à bas les temples et éteignez le soleil. Bien, bravement chanté! La populace le salue, prince des poètes et gloire de l'Orient, puis délice de l'univers, enfin, le plus étonnant des caméléopards. Lui fourbissait son chef-d'œuvre et, entendez-vous, il recommence. Quand il arrivera à l'hippodrome, il recevra la couronne politique, poétique, comme avant-goût de sa victoire aux prochains Jeux olympiques. Mais bon Jupiter, que se passe-t-il dans la foule derrière nous? Derrière nous, avez-vous dit? Oh, oui, je comprends. Ah, mon ami, il est heureux que vous ayez parlé à temps. Mettons-nous en lieu sûr et le plus vite possible, ici. Réfugions-nous sous l'arche de cet aqueduc, et je vous expliquerai l'origine de cette agitation. Oui, cela a mal tourné, comme j'avais pressenti. Le singulier aspect de ce caméléopard avec sa tête d'homme a, il faut croire, choqué les idées de logique et d'harmonie acceptées par les animaux sauvages domestiqués dans la ville. Il en est résulté une émeute. Et comme il arrive toujours en pareil cas, tous les efforts humains pour réprimer le mouvement seront impuissants. Quelques Syriens ont déjà été dévorés, mais les patriotes à quatre pattes semblent être d'un accord unanime pour manger le caméléopard. Le prince des poètes s'est donc dressé sur ses pattes de derrière, car il s'agit de sa vie. Ses courtisans l'ont laissé en plan et ses concubines ont suivi un si excellent exemple. Délice de l'univers, tu es dans un triste passe. Gloire de l'Orient, tu es en danger d'être croqué. Ainsi ne regarde pas si piteusement ta queue. Elle traînera indubitablement dans la crotte. À cela, il n'y a pas de remède. Ne regarde donc pas derrière toi, ne t'occupe pas de ton inévitable déshonneur. Mais prends courage, joue vigoureusement des jambes et file vers l'hippodrome. Souviens-toi que tu es Antiochus Épiphanès, Antiochus l'illustre, et aussi le prince des poètes, la gloire de l'Orient, les délices de l'univers, et le plus étonnant des caméléopards. Juste ciel, quelle puissance de vélocité tu déploies! La caution des jambes la meilleure, tu la possèdes celle-là. Cours, prince, bravo, Épiphanès! Tu vas bien, caméléopard. Glorieux Antiochus, il court, il bondit, il vole. Comme un trait détaché par une catapulte, il se rapproche de l'hippodrome, il bondit, il crie, il y est. C'est heureux, car, ô gloire de l'Orient, si tu avais mis une demi-seconde de plus à atteindre les portes de l'amphithéâtre, il n'y aurait pas eu de répit d'apnée, un seul petit ours qui dut grignoter sur ta carcasse. Bon, allons-nous-en, partons. Car nos oreilles modernes sont trop délicates pour supporter l'immense vacarme qui va commencer en l'honneur de la délivrance du roi. Écoutez, il a déjà commencé. Voyez, toute la ville est sans dessus-dessous. Voilà certainement la plus pompeuse cité de l'Orient. Quel fourmillement de peuple, quel pêle-mêle de tous les rangs et de tous les âges, quelle multiplicité de sectes et de nations, Quelle variété de costumes, quel babel de langues, quel cri de bête, quel tintamarre d'instruments, quel tas de philosophes. Venez, sauvons-nous. Non, encore un moment, je vois un vaste remue-ménage dans l'hippodrome. Oh, dites-moi, je vous en supplie, ce que cela signifie. Cela, oh, rien. Les nobles et libres citoyens d'Épidaphné, étant, comme ils le déclarent, parfaitement satisfaits de la loyauté, de la bravoure, de la sagesse et de la divinité de leur roi, et de plus ayant été témoins de sa récente agilité surhumaine, pensent qu'ils ne font que leur devoir en déposant sur son front, en surcroît du laurier poétique, une nouvelle couronne, le prix de la course à pied. Couronne qu'il faudra bien qu'il obtienne aux fêtes de la prochaine Olympiade, et que naturellement il lui décerne aujourd'hui par avance.